With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est MDR, votre nouveau rendez-vous avec les Comédies Françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Enfin, parfois. Aujourd'hui, on va parler de Faut pas lui dire, de Solange Sicurel, avec mes adorables chroniqueuses. Virginie Adan, bonjour.
Bonjour.
Et Amandine Schmitt.
Bonjour.
MDR, c'est parti. Alors, faut pas lui dire, attention le pitch, une comédie où quatre cousines découvrent que le fiancé de la plus jeune la trompe à quelques semaines avant le mariage, le petit saligo. Et donc, du coup, collégialement, elles décident qu'il ne vaut mieux pas lui dire, d'où le titre.
Bon, il faut que je me grouille, j'ai plein de patientes ce matin.
On vient de faire l'amour, tu sais.
Non, tu viens de faire l'amour. C'est pas mal, non?
Bah, on fait ça même pas 20 ans.
Ah bah oui, bah c'est peut-être moins con à cet âge-là.
Vous n'allez pas bien, vous?
Ah, toutes mes excuses, je vous avais pas vu.
Vous plaisantez.
Tous les stéréotypes sont là. Les cougars, la petite jeune encore idéalisée. Vraiment, tout y est. Donc, il y a surtout Jennifer. Et donc, j'étais en train de me poser la question. Jennifer, est-ce qu'elle a encore sa place au soleil, Amandine?
Elle a sa place au soleil, tout à fait. Donc, elle fait ses débuts au cinéma et c'est pas si mal. Elle s'en tire pas mal.
Elle avait joué juste avant dans Les Francis, je crois.
Dans Les Francis, voilà. Mais pour le coup, elle est pas très aidée par le scénario et les dialogues. Donc, faut pas lui dire, c'est une comédie romantique qui est basée donc autour d'une bande de filles, ce qui est un genre qui revient pas mal ces derniers temps avec Les Gazelles ou Mes meilleurs amis. Et donc, comme c'est un genre qui est à la mode, c'est vrai qu'on attend que ça invente un peu quelque chose de nouveau. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Je pense que le film croit qu'il a un petit peu de modernité parce qu'il y a une histoire de relations homosexuelles. Mais pour le reste, c'est du vu et revu. Donc, comme tu disais, dans les premières minutes, on est un peu dans la ressucée de Sex and the City avec tous les archétypes qui passent. Et pour la suite de ce film, c'est ni très comique, ni très romantique, ce qui est quand même dommage.
Ah merde, surtout pour l'émission, on commence à essayer de rentrer un peu dans le lol, là on commence un peu dur. Alors Virginie, toi, est-ce que ça t'a paru aussi peu convaincant dans le schéma Sex and the City?
Oui, très peu convaincant. Alors effectivement, en général, on attend peut-être un petit peu un twist. Donc là, le seul twist, ce serait que c'est en Belgique, peut-être. Mais bon, c'est quand même un petit peu maigre. On est vraiment, effectivement, on est vraiment dans le stéréotype d'un genre dont on pensait être un peu sorti, en fait, depuis quelques temps. Enfin, les clichés sur les femmes sont tous alignés. Donc effectivement, il y a la cougar, il y a la jeune ingénue, il y a... La working girl, celle qui déteste parce que son mari est trop gentil, donc qui préfère le tromper. Donc déjà, ça c'est le premier problème. On a l'impression d'être vraiment au stade anal de la comédie de filles, et jeu de mots intentionnel évidemment. Par ailleurs, l'autre problème, c'est que les personnages sont furieusement tous antipathiques, moi je trouve. C'est-à-dire que à un moment, voilà, le scénario part du principe, notre amie est en train de se faire tromper par son mec, elle va se marier dans quelques semaines, je pense que la bonne idée, ce serait de pas lui dire pour qu'elle se marie quand même avec ce type qui, de toute évidence, va la faire souffrir. Dans quel monde? Enfin, il y a un truc qui, dès le départ, fonctionne pas, et je pense que toutes les décisions des personnages, des protagonistes de ce film, sont complètement contre-intuitives, et les rendent assez antipathiques, finalement, en fait.
Et c'est ça le pire, en fait, c'est que ce personnage de Marie Volage, en plus, se redécouvre une sexualité avec un monsieur. C'est ça le truc. Ouais. C'est qu'en plus, il y a vraiment une métaphore homosexuelle vraiment filée, parce qu'on se voit vraiment pas vraiment se faire de bisous, mais il débarque chez lui pendant la nuit et tout ça, pour bien appuyer le fait qu'il est méchant. Et donc, du coup, Ariel Mallet a vraiment un sale rôle à jouer, n'est-ce pas, Amandine?
Oui, alors bon, il faut quand même le dire, faut que c'est moi qui m'y colle, c'est ça ?
Comme tu veux.
Alors il y a quand même dans ce film les séances de chez le psy les plus improbables du monde. Donc on a Camille Chamou qui saute sur son psy, bon d'accord. Et on a aussi Ariel Mallet qui a le même psy et qui lui confie ses tourments.
Il n'y a qu'un psy en Belgique, hein, il faut le savoir.
Il n'y a qu'un seul. D'ailleurs, il a un look très curieux. Je me suis demandé si c'était une private joke ou s'il fallait qu'on reconnaisse quelqu'un, parce qu'on dirait Philippe Catherine. Enfin, je ne sais pas quel était le truc.
C'est vrai qu'il a un look un peu Catherine, un peu genre... Tu sens que c'est pas le beau gosse de la soirée, quoi. Il est le second couteau, quoi.
N'empêche que tout le monde lui saute dessus, donc...
C'est lui qui se tape le plus de filles, hein, si je peux me permettre.
Et donc, il y a peut-être une réplique culte dans ce film qui arrive dans une scène chez le psy. C'est Ariel Mallet qui lui dit tout d'un coup « Vous avez déjà eu une bite dans...
» Je peux te le dire. « Vous avez déjà eu une bite dans la bouche, vous ?» Genre, avec l'air tout réjoui d'Ariel Mallet, parce que, en plus, là, je suis chaud, là, je viens de le voir dans l'émission de son frère, Agade Machel, le SNL, quoi. Et tu sens qu'il est pas encore très, très bon acteur. Il joue un peu, le matos qu'il a à jouer n'est pas vraiment très convaincant.
C'est ça,
quoi.
C'est qu'aussi, les acteurs sont quand même vraiment pas servis par le scénario, quoi. Le texte, il est quand même vraiment imbitable, donc, voilà, à plusieurs moments, j'ai un peu bugué sur la façon dont qu'elles avaient de rendre les répliques. Et en même temps, je me suis dit, mais les pauvres, en fait. Le scénario est vraiment, vraiment très mal écrit. Et puis, y a tellement de choses qui sont assez navrantes. Enfin, Ariel Mallet, typiquement, enfin, voilà. Dès le début, on pouvait savoir qu'il était homosexuel. Pourquoi ? Parce qu'il fait des compositions florales, quoi.
Ah, j'avais loupé ce détail.
Voilà.
Et d'ailleurs, pour prouver que les dialogues sont vraiment au ras des pâquerettes, il y a justement une scène où il y a un grand dîner organisé par Brigitte Fossé, qui est un petit peu la matriarche de tout le cercle. Et là, on a donc trois filles qui savent que Ariel Mallet est homosexuel alors qu'il va se marier. Et du coup, elles vont faire plein de blagues du genre tu reprendras bien des boulettes, tu veux une baguette, bah ouais, t'aimes ça la baguette. Et ça vole quand même pas très haut, quoi.
C'est borderline homophobe, on va dire.
Un peu, oui.
Mais sans que ça soit intentionnel, c'est vraiment sur le ton de la comédie en se disant, bah, ça fera rire quelqu'un, mais ça fait zéro rire, quoi. C'est terrifiant.
C'était terrible. Alors moi, je l'ai pas vu dans une salle très remplie, parce que, bah, je pense pas que ça va remplir énormément les salles, très honnêtement. Mais il y avait un silence de mort pendant toute la séance. Hein. Enfin, je crois que j'ai jamais entendu une seule personne rire pendant le film.
Tu sais que si tu vas couvrir les comédies avec nous toute l'année, tu vas avoir beaucoup de séances comme ça. Hein. La séance des Visiteurs 3, il y a pas eu un rire.
Mais en fait, c'est encore pire quand il n'y a pas de dialogue, parce que le film n'a quand même pas grand chose à dire, mais en plus, il y a beaucoup de séquences musicales.
Ah ouais, elles sont terrifiantes.
Mais je crois qu'il y en a trois, quoi. J'ai jamais vu un film où il y en avait autant.
Ouais, bah c'est vraiment le schéma de la série télé de filles, en fait. On retrouve vraiment.
C'est limite les petits jingles à la AB Productions, quoi.
Et à défaut de petits jingles, on a une petite vanne.
Tu es mon mari, tu es le père de ma fille, tu es mon agent de voyage, tu es l'homme à tout faire de ma mère. Par pitié, tu ne vas pas en plus être mon comptable.
Est-ce que vous niquez de temps en temps ?
Alors, la vie ne se résume pas à un trou.
Deux trous, ma chérie.
Enfin, même trois.
Oh, grande classe, Anouche.
La grande classe. Alors... Alors, les filles en sortent pas grandies, mais moi, c'est un truc qui me frappe, parce que c'est à la fois aussi, ça se veut un petit peu comédie romantique, ça se veut cibler les femmes, c'est que les personnages masculins, ils sont pas intéressants du tout. Le personnage de Ben, qui est parachuté, qui revient, qui est soi-disant le mec super sympa, et qui en fait a plaqué une des personnes, et qui revient après 8 ans d'absence, le mec super sympa, qui a pas donné un coup de fil en 8 ans, qu'est-ce que c'est que ces mecs aussi qu'on nous sert, quoi?
Le mec super sympa qui a pas donné un coup de fil en 8 ans parce qu'il avait trompé sa meuf, quand même, en plus. Parce qu'il l'avait trompé, mise enceinte, l'autre nana. Mais je suis un mec super sympa. Enfin, là aussi, dans quel monde, quoi.
C'est le mec que les cousines poussent pour le protéger d'un mariage avec l'homosexuel.
Ouais.
Mais de toute façon, je trouve qu'il y a un gros problème dans ce film. Les relations entre hommes et femmes sont basées uniquement sur les rapports de force, en fait. C'est-à-dire que ça pourrait être une relation... ces filles... Leur féminité est exacerbée, c'est horrible, parce que même quand elles sont vues dans leur boulot, c'est par rapport à leur prisme de fille, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est médecin, et quand on la voit dans son activité, elle est en train de pratiquer une lymphoplastie, donc pourquoi cette opération-là ? Pourquoi ça pourrait pas être une opération du cerveau ? Une opération à cœur ouvert ? Je sais pas, non, c'est une lymphoplastie. Il y en a une autre, donc Jennifer, qui est avocate dans le film, quand elle plaide, elle est en train de se mettre du vernis à ongles, et c'est très agressif, quoi, je sais pas pourquoi on montre autant que c'est des femmes...
Et son argumentaire était de se rendre la plus antipathique juridique le plus vite possible.
Voilà.
Bah, et en tout cas, elle réussit, mais je n'ai jamais vu un avocat plaider comme ça, en tout cas. Peut-être en Belgique, je sais pas, je connais pas le système judiciaire.
Voilà, c'est lié à ça. Tous les conflits sont résolus à la fin quand le rapport de force est gagné, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, Camille Chamou trompe son mari. Et c'est que au moment où lui a compris qu'elle la trompe et qu'il va lui prouver par A plus B, par plein de petits stratagèmes, qu'il a compris que donc lui, bah, c'est un mec bien parce que lui, il l'a pas trompé. En plus, il a compris, il l'a déjoué. Bah là, ça se voilà, la relation est réglée et ils restent ensemble. Pourquoi ?
Alors que visiblement, elle a pas l'air satisfaite au début. Ouais, c'est ça.
Bah non.
Mais moi, il y a quand même le mystère Jennifer qui plane. Je sais pas si elle va continuer une carrière dans la comédie parce que visiblement c'est pas son registre encore. Tu sens que les trois filles, par contre, elles sont au daquet, quoi. Elles donnent tout ce qu'elles ont pour le texte.
On sent qu'elles sont assez enthousiastes quand même. Mais c'est vrai qu'elles sont pas servies. Elles sont vraiment pas servies par les dialogues. Mais on sent que Jennifer, oui, elle a un certain enthousiasme, une certaine fraîcheur. Elle a l'air d'être contente d'être là, quoi. Mais ça reste assez limité quand même. Hein.
Bon, j'ai l'impression que vous avez pas aimé. On va faire le petit vote MDR. Amandine, tu recommandes cette comédie à quelqu'un ?
Je ne la recommanderai pas au cinéma. Je pense que pour une soirée téléfilm, ça passe.
Virginie ?
Alors en plus, j'ai pas de passe UGC, donc j'ai payé ma place.
Oh merde. Et c'est toi la victime.
C'est moi la victime, c'était dur. Je pense que même à la télé, je préfère regarder une rediffusion de Clara Scheller. Donc on en est là. Donc non, je le recommanderais pas.
Mais je préfère carrément regarder Clara Scheller, voilà. En fait. Et surtout parce que le mec était vraiment plus intéressant, quoi. Ouais. Il y avait vraiment un truc où...
Ouais.
Là, tu passes 2 heures voilà. À regarder des pauvres dudes, quoi. Ils sont vraiment, ils sont pathétiques, en fait. Et bah écoutez, je peux pas vous laisser là-dessus. Il faut quand même que vous recommandiez quelque chose, Virginie. Je suis sûr que tu as quelque chose sous le coude à nous recommander, de quelque chose de plus regardable et même peut-être avec une petite thématique avec l'émission, qui sait.
De plus regardable, c'est effectivement en thématique avec Faut pas lui dire. La seule chose que je pourrais recommander, c'est reprenez la première saison de Sex and the City, qui était vraiment pas trop mal.
Elle était plus que pas trop mal.
Exactement, ouais. Parce qu'elle restait un peu dans l'esprit du livre de départ de Candace Bushnell, qui était vraiment une étude de mœurs réellement. La première saison, on a vraiment ce truc de interview de femmes dans New York, un peu sur le schéma aussi de qu'on avait pu voir dans Quand Harry rencontre Sally, où on a les interviews des couples, comment ils se sont rencontrés et tout. Et où donc, du coup, on voit un peu les mœurs sexuelles et intimes des New Yorkaises actives, qui ont l'air d'être vraiment des vraies femmes qui sont dans la vie active, pas je gagne un procès en vernissant les ongles. Et donc du coup, on a quelque chose de plus intéressant qui fait un peu plus bouger les lignes que Faut pas lui dire.
Voilà. Et c'est dingue quand on voit la première saison, sa modernité. Je veux dire, je ne veux pas émettre une critique sur tout le reste que je trouve beaucoup plus d'avant, mais la première saison était vraiment.
Elle était vraiment. Il y avait un truc edgy, un petit peu âcre des fois et tout ça, et ça passait vraiment bien. Et il y avait vraiment cet aspect purement comédie de mœurs qui était.
Et tu sens qu'ils ont essayé vraiment de repomper ça, vraiment les archétypes, vous avez raison, les archétypes, ils étaient déjà.
On les retrouve tous. On peut faire les parallèles. En plus, de toute façon, il y a le schéma avec les quatre. Donc non, on retrouve. On peut faire l'équivalent, ouais.
Donc Sex and the City saison 1. Et toi, Amandine ?
Eh ben moi, je trouve aussi que le lieu de l'amitié entre filles, c'est la série télé. Donc je voulais recommander Insecure, qui est une série où on retrouve aussi quatre copines à Los Angeles, pour le coup. Alors la particularité, c'est qu'elles sont noires, donc ça implique d'autres problématiques, mais pas tant que ça, en fait. Elles recherchent également l'amour, mais c'est beaucoup plus subtil, plus réaliste. Ça montre bien ce que c'est l'amitié entre filles quand on se fait la gueule. Et comme dans Faut pas lui dire, il y a une histoire d'adultère, et je pense que les réactions des personnages par rapport à ce conflit-là sont plus réalistes, en fait.
Donc, Insecure saison 1. Merci à la table Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast. Il y en a plein, allez-y, cherchez. Et aussi sur SoundCloud. Et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour sans doute la comédie d'Edouard Baer, parce que j'ai vraiment envie de la voir.
Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.